Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'est fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant: voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi a pris place devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Le Verbe s'est fait chair et il est habité parmi nous. Frères et sœurs bien-aimés, permettez-moi juste une petite anecdote pour commencer cette homélie. Il y a quelques jours, avec les frères et des amis de la communauté, nous tenions un stand sur le marché de Noël de Noyon. Et nous présentions notamment quelques crèches, et bizarrement, toutes les crèches que nous présentions n'ont trouvé que peu d'acquéreurs. Je crois que nous avons vendu qu'une ou deux crèches, peut-être maximum trois, sur cinq jours de marché de Noël. Ce marché tenait plus lieu d'un marché de gastronomie, si l'on peut dire, où cette fête de Noël, d'après les médias aujourd'hui, sonne plus comme une fête de la gastronomie. En effet, nous sommes certainement un peuple affamés qui avons faim de bonnes choses, de belles choses, de grandes choses. Mais étonnamment, voilà, on se suffit de la nourriture, ce qui va satisfaire les besoins de notre estomac. Et bizarrement, notre société a soif et faim de choses bien plus grandes. Elle va le chercher dans des choses pas très fiables, dans des choses occultes, parfois très coûteuses et pas fiables du tout. L'homme, moi, vous, nous cherchons du sens. Nous cherchons à nous libérer de tout ce qui nous entrave. Nous cherchons à être des hommes et des femmes libres, parce que nous percevons bien que nous sommes comme limités, comme n'arrivant pas à faire ce que nous devons faire et ce que nous aimons faire. Je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais, et il m'arrive malheureusement de faire le mal que je ne voudrais pas. Une seule réponse à ce questionnement, c'est le Christ. C'est pour cela que frère Jean-Pierre a bâti cette crèche, pour cela que nous avons présenté aussi une crèche pas tout à fait encore achevée sur la place. C'est qu'une seule personne, un seul événement répond à cette quête, c'est la personne du Christ. Cet événement, il est cosmique. Il est cosmique parce que l'homme voudrait sans doute faire marche arrière, revenir au paradis perdu, retrouver les traditions d'origine avec un peu d'écologie et d'ancienneté, très vintage. Non, ce n'est pas une marche arrière, c'est une marche en avant. Ce que nous propose le Christ, et c'est le plan de Dieu, c'est une recréation. C'est de reprendre tout le travail de la Genèse. Noël, c'est une deuxième et une recréation une fois pour toutes. Si lors de la première création, l'homme avait été créé image et ressemblance de son Créateur qui lui prodiguait toute sa bonté, aujourd'hui se manifeste un achèvement beaucoup plus grand de ce fameux chef-d'œuvre du Tout-Puissant. Par son incarnation, le Créateur va anoblir sa créature pour lui donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela, c'est pour une seule chose, le déifier, de faire que Dieu puisse donner toute sa divinité à l'homme. C'est pour cela que le Verbe de Dieu s'est fait chair, pour qu'en recevant l'adoption, il devienne fils de Dieu une fois pour toutes, pour sa plus grande joie et sa plus grande paix. En effet, Saint Jean, dans notre évangile, nous fait un récit un peu étonnant, pas facile à lire, dans ce que l'on appelle le prologue, le début de l'évangile de Jean, quatrième évangile. Il semble qu'ils veulent donner à son évangile une tonalité, voilà, de recréation, comme d'une deuxième genèse. Il commence ainsi, « Au commencement était le Verbe ». C'est « au commencement », c'est le premier mot qui est utilisé dans la Bible, dans la Genèse. « Bereshit », c'est « voilà tel que c'était ». Dans les premiers temps, pas forcément tel qu'on l'imagine ou tel qu'on l'a vu, mais voilà le fondement de l'humanité, spécialement le fondement du lien entre l'humanité et Dieu et du désir de Dieu sur cette humanité. Comme pour la Genèse, voilà le début de ce que nous sommes. En effet, la deuxième personne de la Trinité n'est pas arrivée pour la première fois il y a 2000 ans dans une pauvre étable de Bethléem, non. Le Verbe, c'est-à-dire la parole de Dieu, le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu, le Verbe c'est Jésus. Jésus, cette deuxième personne de la Trinité, est présente, elle, depuis toute éternité, au même titre que le Saint-Esprit, lui qui planait déjà sur les eaux. Nous, chrétiens, nous croyons en un Dieu qui se manifeste en trois personnes. Le Père, on l'imagine, le Créateur, le Fils, celui qui va s'incarner, qui va nous sauver par son corps sur la croix et par sa résurrection, et puis le Saint-Esprit. Un Dieu en trois personnes qui existe depuis toute éternité et qui est immuable, qui est sans changement, qui représente une totalité en eux-mêmes comme une perfection belle, une perfection qui attire en nous, qui provoque en nous un grand désir et qui est aussi très rassurante, car c'est un véritable roc pour bâtir notre vie, notre avenir et notre espérance. Alors qu'est-ce que le Verbe ? Le Verbe, c'est en effet la personne du Christ, c'est la parole créatrice de Dieu qui était déjà présente au tout début. C'est la parole qui manifeste la volonté de Dieu de donner la vie. Une parole qui est automatiquement féconde et automatiquement efficace. Elle dit ce qu'elle fait et elle fait ce qu'elle dit. Dieu dit et Dieu fit. Pas de séparation en Dieu. Cela signifie que tout vient du bon désir de Dieu et que rien ne s'est fait sans lui. C'est en ce sens que Saint Jean dit qu'il est la vie et que cette vie est la lumière des hommes. C'est pour cela que Dieu a voulu, bien sûr, la communiquer à Adam, à l'humanité, par son souffle divin. Il lui a insufflé son haleine de vie dans les narines, comme pour que cela pénètre tout son être. Lui qui avait déjà une certaine vie en lui, eh bien, il le rend vivant d'une vie qui le fait vivre de la vie même de Dieu. C'est en ce sens que, si l'homme est proche du genre animal par son corps, il est intimement proche de Dieu par cette nature humaine et divine. Il n'appartient pas qu'au monde naturel, il appartient aussi fondamentalement au monde surnaturel. Il n'appartient pas qu'au monde visible, il appartient aussi au monde invisible. mais le péché aussi mystérieux qu'il puisse être, mais bien réel dans notre vie de chaque jour, à comment empêcher l'homme de porter cette vie divine en lui, de porter cette lumière qui finalement l'empêche de jouir de la vérité. Alors comment l'homme peut-il retrouver sa dignité et sa grandeur? Comment l'homme peut-il trouver sa place dans le monde qu'il désire pourtant gérer et dominer selon le bon commandement de Dieu? Il faut pour cela reprendre le chef-d'œuvre là où il avait été brisé. Alors, voilà la raison de cette deuxième création ou de cette recréation. Il fallait une nouvelle Ève. Pour cela, Dieu s'est choisi une femme, le prototype même de la femme parfaite, la Vierge Marie. Il l'avait présentée depuis toute éternité à la cour céleste. Il l'avait préservée depuis toute éternité. Elle qui, dès la Genèse, est annoncée comme du lignage d'Ève, la descendance d'Ève, qui, elle, aura cette mission d'écraser la tête du serpent. Il fallait Saint Joseph aussi pour assurer la réalisation de la promesse, promesse qui est de sauver toute l'humanité. C'est ainsi que Joseph permit d'accomplir cette promesse que le Sauveur viendrait de la famille de David. Un seul but, c'est de donner naissance au nouvel Adam pour l'offrir à l'humanité. Il faut remettre l'ouvrage sur le métier, c'est-à-dire que Dieu doit se remettre au travail pour achever son œuvre, pas seulement pour se contenter personnellement, car Dieu est totalement achevé, il est tout le temps satisfait, car il est la totalité. Non, c'est pour nous, pour notre joie et pour notre bonheur. C'est un mystère extraordinaire d'abaissement. Dieu le Très-Haut, Dieu le Tout-Puissant, lui qui a ordonné, si l'on peut dire, le bal des planètes, se rend présent dans le corps d'un petit enfant, d'un nouveau-né. Le verbe de Dieu va se faire chair. L'incarnation du Verbe à Bethléem va donner à l'homme d'être déifié, de retrouver ce qu'il a perdu, et bien plus encore. Comment l'homme irait-il à Dieu si Dieu n'était pas venu à l'homme? Comment l'homme se libérerait-il de sa condition mortelle et de ses ténèbres s'il n'était régénéré, selon la foi, par une naissance nouvelle donnée généreusement et abondamment par Dieu? Il ne s'agit pas là, bien sûr, de faire marche arrière ou de retrouver ce paradis perdu qui fait fantasmer beaucoup de monde aujourd'hui, ou de retrouver une certaine pureté originelle en mangeant du bio. Non, il s'agit de se laisser visiter par Dieu. Ce n'est pas d'abord un phénomène de société, c'est d'abord un phénomène tout à fait personnel et très intime. C'est la foi qui habite mon cœur. Il s'agit de me laisser visiter par Dieu, de contempler le Très-Haut qui vient se pencher avec délicatesse sur ma petitesse. C'est de me laisser séduire par l'abaissement de celui qui veut me faire passer du statut de créature, de simple humain avec cette condition mortelle, à un statut de fils de Dieu, parce que Dieu est mon Père. À tous ceux qui l'ont reconnu, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'homme, quelle que soit sa condition sociale, est appelé à être adoubé, à être anobli par Dieu. Qui se fait visiter par la lumière, parce que la lumière de vérité est offerte par le Verbe de Dieu. Elle vient faire de nous des fils du Père pour donner, pour nous redonner cette image et ressemblance paternelle, car encore une fois, Dieu veut nous partager sa divinité. Il veut nous faire participer à sa beauté, à sa grandeur. Il veut nous partager sa propre personne. Le Verbe de Dieu s'est fait chair, il a habité parmi nous. En effet, en cette nuit, le ciel, les cieux se sont déchirés et la lumière du Très-Haut est venue visiter nos ténèbres. Mais il ne s'agit pas seulement de célébrer l'événement d'il y a 2000 ans. Certes, cet événement est folie pour les puissants, sujet de jalousie pour Hérode, mais elle est sagesse pour les pauvres, elle est évidence pour ces simples bergers venus à l'appel d'un ange visiter la crèche, elle est signe de l'intelligence pour ces mages venus de loin, ces chercheurs de vérité observant dans les astres ce qui pourrait bien donner sens à l'humanité. Mais ce qui est encore plus bouleversant, c'est qu'ils veuillent pas seulement venir nous visiter, comme pour nous donner une gâterie ou nous prouver qu'il existe vraiment. Dieu veut pas seulement nous visiter, Dieu veut demeurer parmi nous. Cela sous-entend qu'aujourd'hui et demain, il sera avec nous et en nous. Être chrétien, c'est croire que Dieu demeure clairement parmi nous. Certes, nous ne le méritons pas, certes, nous ne pouvons pas le gagner, il nous faut juste collaborer, il nous faut juste nous disposer à celui qui semble caché, celui qui parfois, et c'est ce qu'il y a de plus commun, qui va laisser tous nos sens insatisfaits. Mais c'est peut-être le moment de cette fin d'année civile et ce début d'année, même si ça a déjà commencé un petit peu, d'année liturgique, de faire le point. Suis-je ouvert? Est-ce que je profite réellement d'un si grand avènement? Suis-je habité par le Seigneur? Suis-je vraiment illuminé par la lumière de la vérité? Car si j'accueille cette lumière de vérité, tout mon être, jusqu'à mon corps, ne peut rester dans les ténèbres. Suis-je vraiment anobli par ce roi qui veut me communiquer sa propre royauté? Suis-je, comme certains, et conséquent dans ma vie, comme appartenant aussi à son royaume, c'est-à-dire à l'Église? Ou en suis-je de ma filiation et de ma reconnaissance ou de ma recherche en paternité? Parce que tous, nous avons part à sa plénitude. Tous, nous avons reçu grâce après grâce. Quelles sont les grâces que j'ai réellement reçues cette année? Quelles sont les grâces à demander pour les temps à venir? Cette grâce, ne l'oublions pas, c'est la vie même de Dieu qui s'incarne, qui prend concrètement chair dans les événements au quotidien. Ce n'est pas de la magie, c'est du soutien quotidien de Dieu et une immense proximité parce qu'il veut demeurer parmi nous. Pour cela, demandons à la femme magnifique, la Vierge Marie, de nous donner d'accueillir cette visitation, qu'elle vienne disposer notre cœur à nous renouveler dans l'accueil du Christ. Parce que Marie sait ce dont nous avons besoin, Dieu sait aussi ce dont nous avons besoin, alors ayons l'audace de nous remettre en sa bonne grâce pour que nous jouissions de sa plénitude, source de notre joie, source de notre paix pour nous et pour tous ceux qui vivent autour de nous. Amen.